400 millions de personnes sont privées d'accès à l'eau potable en Afrique sur une population de 1 milliard 216 millions d'habitants. Pourquoi ? Bienvenue à l'écoute de votre émission interactive quotidienne. À votre avis, Nathalie Barge, pour vous accompagner dans ce débat avec nos auditeurs, un débat déjà engagé sur Facebook. Alors, 400 millions de personnes privées d'accès à l'eau potable en Afrique, pourquoi et comment faire face aux pénuries d'eau et au manque d'accès aux services d'assainissement? Donc ça, c'est la question qui vous a été posée sur le Facebook de VOA Afrique et que nous allons donc développer dans cette émission. Alors, 180 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année en Afrique subsaharienne, soit près de 500 par jour à cause de maladies diarrhéiques imputables au manque de services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, selon l'UNICEF. Et voilà, nous essayons donc de joindre certains de nos auditeurs pour commenter un petit peu tout cela, ces problèmes d'eau, ces problèmes d'eau potable. Je pourrais peut-être faire un rappel d'un rapport de l'OMS bon, qui date de 2015. C'est le dernier que j'ai trouvé sur les progrès en matière d'assainissement et d'alimentation en eau. Alors, la situation varie d'une région à l'autre. En Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, Océanie, Asie centrale et le Caucase n'ont pas atteint l'objectif, hein, le fameux objectif, l'ancien objectif de réduire de moitié d'ici 2015 hein, le pourcentage de la population sans accès à un système d'épuration. C'est dans les 48 pays les moins avancés désignés par l'ONU que les niveaux de couverture sont les plus faibles, ce qui n'est pas une surprise. L'Afrique subsaharienne n'a pas atteint la cible des OMD, donc l'ancienne cible, mais l'utilisation des points d'eau améliorés a augmenté de 20%, dit le rapport, ce qui nous avance pas beaucoup parce qu'on ne sait pas par rapport à quelle année. Des disparités existent entre les zones rurales et urbaines, ça on l'imagine bien aussi. Parmi les personnes qui n'ont pas accès aux points d'eau, 8 sur 10 vivent en zone rurale. Les populations sans accès vivent principalement en Afrique subsaharienne et en Asie. Afrique subsaharienne, 319 millions, Asie 260. Je crois que nous avons un auditeur en ligne. Samedi.
Oui, je vous écoute.
Eh bien, c'est moi qui vais vous écouter. Comment allez-vous?
Je vais bien, et vous?
Ça va très bien, vous êtes où samedi? Dans quel pays, dans quelle ville?
Bon, je suis au Tchad, précisément dans la capitale du Tchad, N'Djamena.
N'Djamena, comment ça se passe là-bas, donc l'eau potable?
Bon, N'Djamena, finalement, j'ai trouvé que c'est un peu mieux, parce que même si l'eau ne couvre pas toute la ville de N'Djamena, parce que parfois on fait le château à la maison et puis pour le gouvernement ça avance bien. Mais ce que j'ai constaté, ce qui dérange souvent dans les provinces surtout, quand j'étais à Abéché, j'ai trouvé que là-bas ils ont seulement qu'un seul château d'eau, donc finalement ils souffrent énormément de l'eau. Et dans la ville de Léré également, jusqu'à là, le château s'est resté comme ça. Même à Binder, toujours la province, donc il y a toujours le problème de l'eau. Donc, à la fin, j'ai trouvé que c'est le problème de gestion du gouvernement.
Mmh. Et alors, ben, comment vous l'expliquez? Pourquoi, selon vous, le gouvernement ne prend pas en charge cette situation?
Bon, ça c'est un peu compliqué. Parce que vous savez, la politique ici, c'est compliqué, donc je ne peux pas parler concernant tout ça. Si dans le cas-là, est-ce que vous savez bien avant que la consommation, comme je vous ai dit en ligne, que c'est l'eau, c'est une boisson la plus consommée au monde.
Oui, la plus consommée même
donc,
au monde. Hein. Ouais.
Voilà. Mmh. Donc pour faire autre chose, il faudrait que on arrange d'abord le côté d'eau. Pour avancer à autre chose, quoi. Mais à la fin, j'ai trouvé que quand la population souffre de l'eau, c'est que il n'existe pas une vie ici, alors.
Mmh. Oui, en fait, vous dites également, je peux faire une journée sans manger, mais pas sans boire de l'eau. Ça, c'est vous qui le dites, évidemment. Samedi, c'est un peu vrai, hein. On peut très bien comprendre ce point-là. Je crois que samedi, vous pouvez peut-être rester avec nous, si vous voulez, continuer de rester avec nous, écouter l'émission. Je crois que nous avons Christian Djerabé. Non, la ligne n'est pas bonne de Christian, donc on va essayer de le joindre plus tard. Nous avons Kassim.
Je peux participer samedi prochain, non?
Kassim?
Oui.
Vous êtes où, Kassim? Vous êtes dans quel pays?
Je suis à Bamako, Mali.
À Bamako. À Bamako, comment ça se passe l'eau potable là-bas, dans la capitale?
L'eau potable, non, parlons sérieusement, il n'y a pas d'eau ici. Dans la capitale même, pour avoir de l'eau, tout à fait un problème ici, madame. C'est tout à fait un problème. Avec la gouvernance là, on a tellement de problèmes. Il y a tellement de gens, il n'y a pas de robinet. Un sachet de la c'est 400 francs ici, très cher.
Et comment c'est chez vous, Kassim? Est-ce que vous avez l'eau courante, potable, à partir du robinet?
Pour les robinets, là, ça coupe. Ça peut faire... la coupure commence à 8h jusqu'à 13h, 14h. C'est oui. Trop. Si donc... arrive aussi, il y a des harangues. Tu peux patienter jusqu'à 3h du temps pour avoir la tour. C'est tout à fait un problème.
Donc, vous avez des coupures d'eau comme les coupures d'électricité.
Les coupures d'eau comme les coupures d'électricité, ouais. C'est la même.
Et on vous les explique comment?
Quoi?
On vous les explique comment? Qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi on coupe l'eau?
Oh, tout ça là, c'est l'incompétence des dirigeants. Ils ne connaissent rien, madame. On est en train de vivre là dans depuis combien d'années on est dans les mêmes situations. Tous les temps, on fait les remandements. Le ministre, il va dire donc, dans tout ça, on va résoudre les problèmes d'électricité et d'eau. On va faire les remandements, les mêmes scénarios. 1, 2 mois, 3 mois, on va commencer à zéro.
Merci Bakary, vous pouvez rester avec nous. Non, c'était Kassim, mais je crois que nous avons également Bakary Keïta à Bamako. Bakary.
Bonsoir.
Comment ça va?
Je me porte très bien, et chez vous?
C'est parfait, ça va bien aussi. Alors vous, quelle vision, quel point de vue vous avez sur le problème de l'eau potable à Bamako et plus largement au Mali?
D'abord, l'eau, c'est la vie. Donc, mais souvent... Les problèmes d'eau quand même se posent à plusieurs localités, surtout par exemple la région du Nord, par exemple. Souvent, les problèmes d'eau se posent, même à Bamako aussi, les robinets vraiment se coupent et viennent tardivement. Je crois que c'est ça, alors que l'eau vraiment, l'eau potable surtout, ça c'est la vie. Donc, à mon avis, le gouvernement quand même doit mettre beaucoup de moyens à ce niveau pour que la population puisse s'enquérir quand même de l'eau potable.
Mais vous, qu'est-ce que vous auriez à dire, par exemple, à votre gouvernement par rapport à ces manques-là? Comment vous le vivez au quotidien, autrement dit?
Bon, les gens se débrouillent, mais souvent, ils disent que souvent, il n'y a pas assez de pluie, c'est ce qu'ils disent. Mais pour nous, ce sont des arguments qui ne tiennent pas beaucoup. Moi, je crois que c'est à peu près une négligence de leur part, parce que il ne faut pas quand même qu'on se trompe. Ceux qui sont bien placés, le gouvernement, il ne manque jamais quand même l'eau potable. C'est la population lambda, vraiment, les gens quand même qui n'ont pas assez de moyens, souvent, qui ont des problèmes quand même à s'approvisionner quand même avec de l'eau potable. Donc, je crois que je profite sur vos antennes pour que le gouvernement ait quand même pitié de nous. Parce que l'eau, c'est la vie. Si on ne trouve pas quand même de l'eau potable, ça peut amener quand même d'autres maladies, alors que la santé, c'est la richesse première de tout homme.
Absolument. Merci beaucoup, Bakary Keïta. D'ailleurs, au Cameroun, je voudrais parler d'un reportage de notre correspondant Emmanuel Juntap, qui dit que dans certains quartiers de Yaoundé, les robinets sont à sec depuis près de 8 ans. Et il parle d'un quartier d'ailleurs surnommé Damas. Il parle d'une source d'eau qui a été aménagée avec 3 tuyaux par les résidents eux-mêmes. Alors il cite notamment un septuagénaire qui dit, je cite, la SENEC, l'ancienne société donc nationale des eaux du Cameroun, nous a dit qu'il y avait pénurie d'eau. Ces agents sont venus enlever les compteurs. Depuis lors, nous sommes sans eau. Alors, ils pointent la société donc, qui distribue l'eau et les autorités publiques. Notre correspondant dit qu'il y a donc des personnes qui parcourent parfois 4 km à la recherche de l'eau, dont des enfants de 7 à 9 ans. Alors, c'est très courant, ça, en Afrique, hein, les enfants, les femmes. Et dans son reportage, il dit que certaines personnes avouent n'avoir jamais vu de l'eau couler à partir d'un robinet au domicile familial. Ça aussi, c'est courant. La question de couper l'eau, effectivement, toujours dans ce reportage, nous dit notre correspondant, il parle de la Ligue camerounaise des consommateurs qui, bon, ça rejoint un petit peu ce que vient de dire Bakary, qui violerait, donc selon lui, le droit d'accès des populations à l'eau potable. Et le chef du quartier, donc de ce quartier de Yaoundé, a lui-même aménagé dans sa concession un puits d'eau moderne à usage exclusivement familial. Je crois que nous avons un autre correspondant en ligne. On a Ngarieji, c'est Ngarieji Matadzi. Alors là, je suis vraiment désolée de prononcer votre nom comme ça. Vous allez le prononcer pour moi.
Il n'y a pas de souci, c'est Ngarieji Matadzi.
Ngarieji Matadzi. Et vous êtes à N'Djamena, c'est ça?
Actuellement, je suis à N'Djamena, oui.
On vous écoute.
Ok. J'ai dit, problème de l'eau, c'est un petit problème. Franchement, si le gouvernement est prêt à aider la population, il peut le faire. Mais il y a manque de volonté.
Oui. Alors ça, on le retrouve beaucoup dans la plupart des commentaires que nous avons. Manque de volonté. Comment vous l'expliquez, ce manque de volonté? Parce que, comme l'ont dit plusieurs de nos auditeurs, l'eau, c'est la vie. On le sait tous. On est tous bien placés pour le savoir. Et on en a besoin au quotidien, vraiment, pour survivre.
Effectivement. L'eau, c'est la vie. C'est vrai. Si je prends le cas de N'Djamena. N'Djamena, c'est une grande ville où on prétend dire que c'est la vitrine d'Afrique. Mais si on prend un quartier, on peut avoir 2 à 3 forages. Et on ne peut pas aller puiser à tout moment chez le voisin. Mm-hmm. Si le gouvernement peut aider la population, il peut faire une dizaine de forages. Il peut aider la population à puiser et puis voilà, c'est un peu ça. Alors que on est là à investir dans l'armement, des trucs qui n'arrangent même pas la population, quoi. C'est un peu ça.
Mais donc, en fait, vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment de points d'eau dans les quartiers, c'est ça?
Non, il n'y a pas assez.
Est-ce que le gouvernement a l'intention de faire quelque chose? Est-ce qu'il y a du nouveau là-dessus? Vous en avez entendu parler ou pas?
Non, rien. On a fait assez de propositions. Les jeunes, on s'est associé en équipe, des trucs comme ça, pour faire la proposition au chef des arrondissements, des trucs pour qu'il nous fasse quelque chose de bon, mais franchement, il n'y a rien.
Oui, vous n'avez pas eu de réponse?
Non, c'est resté toujours. Il y a un silence total.
Merci beaucoup Ngarieji. Donc bon courage pour la suite. Je crois que, alors je vais parler du récent rapport de l'OMS disant que plus d'un quart des décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde est attribuable à la pollution de l'environnement, y compris de l'eau. Voilà ce fameux report. Hein. Les décès dus au paludisme pourraient être évités en réduisant le nombre de gîtes larvaires de moustiques ou en couvrant les réservoirs d'eau potable. Ce qui est intéressant de savoir que des réservoirs d'eau potable ne sont pas couverts. D'ailleurs, je le découvre ici avec donc ce rapport de l'OMS. Nous avons un autre auditeur en ligne. Kofi?
Oui, allô?
Vous êtes où, Kofi? Allô, Mé?
Oui, je vous appelle depuis la capitale togolaise, Lomé.
Parfait. Alors, comment ça se passe dans la capitale togolaise au niveau de l'eau potable, de l'accès à l'eau potable?
Ici, actuellement, c'est le statu quo aussi, puisque nous avons un temps constaté les pénuries d'eau dans les quartiers tels que Tégué, en allant vers le stade, et où la population est presque privée de l'eau. Mais cette pénurie s'explique, comme je viens de le noter dans mon commentaire, par la vétusté des installations d'eau, d'addition d'eau potable qui date de l'époque coloniale.
Donc, il y a eu cet manque de volonté des hommes politiques à pouvoir réhabiliter ces infrastructures pour permettre à la population de s'assouvir.
Ouais. Oui, alors je ne sais pas si on vous a bien compris à cause de la ligne, peut-être qui n'est pas très bonne. Donc vous dites que cette pénurie d'eau qui mine le continent s'explique par la vétusté des installations d'adduction d'eau qui datent donc de l'époque coloniale. Et vous parlez de la non-réhabilitation de celle-ci. Donc pour résoudre le problème, il faut la création d'autres centrales d'adduction d'eau potable et une bonne politique de gestion. Est-ce que selon vous, les autorités de la capitale togolaise sont à même de pratiquer ce genre de politique, une politique de gestion des eaux donc qui pourrait servir la population?
Actuellement, la seule constat que nous faisons, c'est le discours sur le papier, mais sur le terrain, rien ne se réalise. Vous voyez, presque bon nombre d'entre eux ne nous font que des discours dilatoires. Vous voyez, ils parlent, mais ils ne réalisent rien.
Oui. Merci beaucoup, Kofi, pour votre témoignage à partir de la capitale togolaise, Lomé. Encore des chiffres avant de prendre un autre auditeur. La sécheresse, la fameuse sécheresse en Somalie. La Somalie a décrété d'ailleurs l'état de catastrophe naturelle fin février. Alors l'OMS estime que plus de 6 millions de Somaliens, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Bon, je parle de la sécheresse parce que c'est un problème d'eau également. Il y a donc la Somalie, le Nigeria, le Soudan du Sud qui ont un problème de famine, également le Yémen en Syrie, en dehors de l'Afrique. Plus de 20 millions de personnes sont menacées par la famine dans ces quatre pays. Donc selon l'ONU, l'eau non potable engendre des maladies donc fatales pour les enfants et c'est l'un des principaux facteurs causant la malnutrition. C'est ce que rappelle l'ONU et je citerai au passage le cas du Niger, notamment les régions de Maradi, Zender, Agadez, Tawa, où on signale la fermeture de plusieurs écoles et un taux d'abandon de plus de 50% à cause de la sécheresse. 33 000 enfants d'éleveurs ont abandonné l'école pour suivre leurs parents à la recherche de zones de pâturage favorables, donc selon l'ONU. Donc voilà, en plus du manque d'eau potable, l'Afrique, évidemment, comme nous le savons, a des gros problèmes de sécheresse. Nous avons Innocent à Abidjan, je crois, en ligne.
Oui, je suis en ligne.
Comment ça va, Innocent?
Oui, ça va très bien.
Alors, la situation de l'eau potable à Abidjan?
Ouais, nous-mêmes, là, on a été victimes la fois dernière. On a tapé au moins 3 jours sans eau à Cocody. Il dit que c'était catastrophique. Oui. Même pour avoir l'eau simplement pour boire, moi, ce qui me fait très mal en Côte d'Ivoire, c'est que on a une société appelée Sodefi qui coupe l'eau subitement sans même tenir compte de la population, sans même informer. C'est hier, c'est aujourd'hui, mais j'écoutais un peu la radio et ils nous ont dit qu'ils étaient en conférence pour nous dire qu'ils vont s'excuser. Or, en ce moment, quand il y a un problème, il faut informer la population pour dire que non, il y a un incident qui va provoquer la crise d'eau et l'on va se préparer, la population va se préparer. Mais dommage, rien du tout. Où on va aller puiser? Il faut aller puiser l'eau dans les puits, où les puits sont tellement sales, tellement mal propres, que nous-mêmes, là, pour boire, c'est un problème.
Ouais.
Donc, la pénurie d'eau, c'est un problème à Abidjan. Même quand c'est à Bobo. À Bobo, actuellement, il n'y a pas de l'eau. Où la population va aller chercher de l'eau? Ou même dans les rivières, tout le monde va déféquer. C'est dans ça que la population va boire, mais dommage.
Et vous dites dans votre message, votre commentaire Facebook, que vous voulez une libéralisation du secteur, c'est ça?
Oui, on veut une libéralisation où toutes les sociétés vont venir s'implanter en Côte d'Ivoire. Il y aura une concurrence. Quand il y a la concurrence, chacun est obligé d'aller s'abonner où ça peut l'arranger.
Et vous pensez que ça puisse être la seule solution pour résoudre le problème?
C'est la seule solution en Afrique. S'il y a la concurrence, tous ces pénuries d'eau vont cesser.
Merci beaucoup, Innocent. On a Omar à Djibouti. Omar.
Oui, bonsoir. Comment allez-vous?
Ça va très bien et vous-même à Djibouti?
Oui,
parlez-nous
va,
un
va,
petit peu de l'eau potable là-bas.
Je vous dis, en fait, dans généralité, ça va. Là, on peut en trouver, mais il y a des difficultés dans les niveaux ruraux, dans les secteurs ruraux. Mm-hmm. L'eau est rare. Avec le système de l'agro-pastoral, les gens n'arrivent pas à avoir d'eau, mais dans les milieux urbains, ça y est, ça va, on peut en trouver de l'eau. Bah, même si c'est pas assez régulier pour chaque mois, pour le quotidien, mais souvent on y trouve de l'eau. Il n'y a pas un problème de ce côté-là. Mmh.
Dans votre commentaire, vous parlez de la sensibilisation, justement, et d'investissement dans le secteur, sans oublier la formation des locaux. Bon, vous dites sans eau, pas de développement, et c'est aussi un droit pour tous. Mais bon, alors, est-ce que des actions sont envisagées pour cela, justement, des actions de sensibilisation, de formation, et puis de développement du secteur? Parce que bon, former les gens, ce n'est pas à la population de s'organiser pour pouvoir absolument trouver des moyens de... Enfin, c'est ce qu'elle fait, d'ailleurs, en Afrique, la population, elle s'organise. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de ces personnes du reportage de notre correspondant à Yaoundé, qui s'organisent elle-même pour carrément planter des tuyaux à la source, hein, pour pouvoir se procurer de l'eau dans une ville, dans une capitale qui logiquement devrait s'occuper de ses habitants. Donc qu'est-ce que vous préconisez vous-même ?
Moi, la sensibilisation, d'abord c'est au niveau de locaux, parce que les gens doivent savoir comment utiliser l'eau, le gaspillage d'eau, parce qu'on utilise, quels sont les litres qu'il faut utiliser par exemple, est-ce qu'il faut prendre le douche chaque fois, est-ce qu'il faut avoir le minimum d'eau dans l'utilisation, c'est ça, la sensibilisation dont je parle. Et aussi, il faut parler dans la sensibilisation, il faut évoquer que l'eau, elle est indispensable, elle est rare, elle devient de plus en plus rare. Et dans l'avenir, peut-être il y aura une guerre à cause de l'eau, donc, qui est basée sur l'eau. Mais le sujet le plus important, c'est pour éviter la corruption et le détournement des fonds qui sont toujours... un fléau en Afrique, et c'est ça ce qui pose problème. Par exemple, les canaux, on peut faire l'irrigation, on peut faire le dessalement de l'eau de mer, c'est possible. Mm-hmm. Mais ce qui pose problème, c'est le détournement des fonds, la corruption des hommes politiques.
Merci.
En Afrique.
Ouais.
Voilà.
Merci. Un grand merci, Omar, pour votre point de vue, votre commentaire. Mauvaise répartition de l'eau, problème d'infrastructure. Et il faut savoir que l'eau est pourtant présente en quantité suffisante en Afrique, qui dispose de 5400 milliards de mètres cubes d'eau dans ses nappes phréatiques, selon Sylvain Houcher, secrétaire général de l'Association africaine de l'eau, donc citée par l'AFP. On a un autre auditeur. On a Abdoulaye Diallo. Je n'ai pas compris le nom, j'essaie de comprendre.
C'est Abdoulaye Diallo d'Abidjan.
Très bien, comment allez-vous?
Oui, je vais bien.
On vous écoute.
Okay, mon intervention sur ce phénomène, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde au niveau de l'Afrique, surtout précisément ici, en Côte d'Ivoire, il y a des difficultés. Jusqu'à présent, il y a des quartiers qui ne sont pas desservis. Mm-hmm. Quand on regarde, moi je pense que c'est la faute de nos gouvernements, ils ne font pas assez, il n'y a pas d'investissement. La plupart de l'eau d'abord, sont perdus lors de la distribution. Ça n'arrive pas dans les robinets. Parfois, tu vas avoir des tuyaux cassés ou l'eau peut se déverser pendant 48 heures sans même intervenir. Quand on regarde, par exemple, si tu vois, dans certaines villes, où, par exemple, on avait fait des installations pour 500 000 voire 1 million d'habitants, tu vas se retrouver maintenant avec une population de 5 millions d'habitants, c'est toujours les mêmes infrastructures. Il n'y a rien qui a été prévu, développé pour pouvoir distribuer, en tout cas faire face à un grand nombre de populations.
Un grand merci pour votre commentaire. Je voudrais terminer rapidement sur le commentaire de Eddie Loma qui dit « Nous, le petit peuple, nous n'avons pas des bonnes idées à donner parce que nous sommes pauvres. Demandez à ceux qui ont accès à l'eau potable et ils vous diront parce que nous sommes riches. Et ne demandez pas aux ministres africains de l'énergie car ils vous diront que les chantiers sont en cours. » Et voilà, très bonne soirée à tous et un grand merci à tous nos auditeurs pour leur participation. À très bientôt, au revoir.